être debout à bout et faire un sport nouveau au cœur d'un monde d'espoir.
Métissé, poilu, tatoué, embarqué côte à côte, l'amour n'a pas d'oreille, il n'a pas d'œil à l'infini. Il nous délivre tous ses secrets.
Il faut savoir que sur un visuel, il y a plusieurs personnes qui ont participé pour, dans la réalisation. On a collé, recollé, recollé, et ça a donné ce résultat-là, quoi.
Et donc, si je me souviens bien, c'est tu récupères des tracts, c'est ça ? Et un peu partout dans la ville, les tracts qui nous entourent. Et après, c'est à partir de ces tracts que se font ces collages.
Ouais, voilà, c'est ça. Je récupère que du tract, que ce qui est mis à distribution. Donc ça, on en trouve vraiment partout, c'est pas compliqué. Mais par contre, après, il y a vraiment un travail de sélection qui est fait. Donc on sélectionne, on découpe que ce qui nous intéresse, que ce qui nous plaît. On colle que ce qui nous plaît. Les mots, les images qui nous provoquent des sensations, les mots qui font appel, je sais pas moi, à nos sentiments. Et parce que c'est ça qui donne en fait de la force au visuel. Et c'est ça aussi qui va donner de la force au texte des personnes qui vont participer, parce que si quand on écrit sur un visuel, généralement c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous a accroché, quoi, en fait.
J'ai couché sur papier ce qui me venait. Alors c'est un peu, je me suis un peu amusée avec ces images. Migration humaine, exode, larmes et espoir, pensait-elle pendant qu'elle pointait son fusil sur le requin. Vous êtes des héros, mes amis, mes frères. Elle avait été bien dans la bibliothèque à lire ses livres rouges. Que le rouge est joli. C'est une couleur qui lui va si bien. D'ailleurs, elle faisait sensation avec sa robe rouge à l'époque où elle était toute rousse. Elle faisait la fête, oubliait sa détresse dans ses amours plats comme des tapis jaunes.
Fin de citation.
Fin de texte, point.
Et le groupe avec lequel t'as fait ces découpages, c'est un groupe qui s'est constitué comment ? Est-ce que aussi ces personnes après ont écrit des textes ? Enfin, comment ça s'est passé ?
Alors oui, ils ont écrit des textes, et c'est dans le cadre en fait d'un projet qui se déroule sur tout le Grand Angoulême, si vous voulez. Et pour la partie de création des visuels, c'est la ville d'Angoulême en fait qui s'était engagée dans le projet de création. Voilà, j'avais fait une proposition. Et donc là, parce que la ville d'Angoulême justement a participé, il y a eu quasi l'ensemble des centres sociaux et des médiathèques qui ont participé. Donc il y avait un groupe de 6 structures, et les habitants, eux, pouvaient, c'était gratuit. Voilà, une fois que la ville avait participé, donc c'était gratuit pour les habitants. Voilà. Et les habitants pouvaient venir par les structures participer au projet. Et donc ça a duré 2 mois de création. Et moi, je leur ai montré étape par étape comment est-ce que je constituais un visuel de phase de tract. C'est comme ça que ça s'appelle. Et comment est-ce que je constituais un visuel, et pourquoi est-ce que je faisais ça, qu'est-ce qui m'intéressait. Voilà, on a eu un vrai moment d'échange.
Sur notre bateau, entre amis, faisons la fête en buvant une tasse de thé.
Sur notre bateau, entre amis, faisons la fête
en buvant une tasse de thé.
Alors, moi je dis rien parce que je crois que...
Tu dis comment ? Bisous héros, ouais, moi aussi je dis bisous héros.
Bisous héros,
c'est ça ?
Moi je dis voilà. Bisous héros, ouais, c'est ça ?
C'est bon.
Ok.
Ah ouais. Oh, c'est joli,
okay,
c'est
chouette, deuxième ça. De
c'était vraiment chouette.
Deuxième de Lucie.
Bisous héros. Et alors,
deuxième de Lucie.
Est-ce que ce visuel-là, qu'est-ce qui t'a fait écrire dessus ? Tu t'aimais bien le
bateau.
C'était le bateau, hein ?
Oui.
Qui t'a transporté ? Ok. Ah, c'est top en tout cas. Ok, tu veux bien nous lire ton deuxième texte ?
Mon oiseau m'a dit que cette année, on va explorer et rire.
Ouais. Moi aussi, à chaque fois qu'on lit un texte, ce qui est intéressant, c'est que je redécouvre les visuels au final.
Ouais, parce qu'il y a tellement
avec,
de trucs.
Oui, comment les personnes interprètent les choses. Du coup, ça me donne à chaque fois un nouveau regard.
Crapaud, escargot ou mouton, ça va toujours bien en sortant.
D'accord.
Ça va toujours bien en sortant. Tu dis que c'est ça ?
Oui.
Ouais, tu nous confirmes ?
Pirate sportif.
Ok, ouais, bravo, pirate sportif. Ouais, super. Ouais, ça mérite quand même des applaudissements, c'est bien.
Allez, vous les enfants ?
Super, allez, c'est parti.
Alors, n'ayez crainte, demain sera un monde en paix. Connectés, nous jouirons de la beauté de la nature. Seuls, dans nos villes, nous garderons nos secrets. Hypnotisés, nous ne verrons plus rien de ce monde et nous finirons par nous demander qu'est-ce que l'amour ? Est-ce qu'il n'y a pas d'amour sans guerre ?
Et donc ce matin, t'as commencé l'atelier ? À quelle heure ? Il y a eu du monde ?
Alors, ce matin, ça a commencé doucement. Tout le monde n'est pas très, très matinal, mais nous, ça nous a permis de mettre les choses en place. Voilà. Et puis après, ça a commencé à midi avec une première session qui s'est plutôt bien passée. On a fait une deuxième session entre nous, voilà, ceux qui prenaient le son, moi-même, puisque moi-même, je réécris et réécris encore sur les visuels. Et donc voilà, on a fait une deuxième session et là on part sur une troisième session d'écriture et de lecture où on partage justement ce qui nous plaît, quoi, ce qu'on a écrit.
Cela se passe juste devant nous sur la grande scène. Daniela est en train de se préparer. Elle va vous accompagner durant 15 minutes, 20 minutes de méditation.
En quête des secrets du royaume d'Ijnogud, embarque donc dans le navire des Beatles. Maintenant, pars vers l'infini et l'au-delà, tu n'as qu'à suivre Chewbacca.
La licorne regarde la dame qui sort de la gueule du tigre.
Fini les vacances à Athènes, un compte à rebours est lancé, Nicolas Petit à l'école est rentré, fort et reposé, pas de panique cette année, un plein de vitamines et le mois de décembre arrive, trop vite le temps qui passe. Un cadeau à Noël et la Saint-Valentin trépasse. Retour à Athènes, s'il vous plaît.
Elix, la cagouille, court plus vite que son ombre pour aller au spectacle.
Alors, demain, je dis oui à la culture. Je dis oui au futur. Fini l'hypnose et les mots roses. Demain, je dis oui au grandiose, à l'amour, ce fruit qui ne coûte pas grand-chose. Demain sera un festival sans secret et je vous le dis sans regret.
C'est aujourd'hui que commence la paix.
L'abus d'alconsommation nuit à la sanctéâtralité. Je répète. L'abus d'alconsommation nuit à la sanctéâtralité.
Alors, si vous aviez pu voir ma tête, j'ai fait la grimace parce que là, on est vraiment à un niveau de difficulté. Je n'ai pas les visuels devant moi, mais j'essaye de faire par mémoire. Et là, tu veux bien nous relire?
Je vais le relire, ouais. Je vais le relire plus vite. Ivre virgule, il prend le préposé de la CAF pour le lapin d'Alice et lui tire les oreilles. Pourtant, il n'était pas si en retard. Alors, il pensa à toutes ces belles fêtes qui arrivent et aux jours fériés aussi.
C'est pas vrai. Alors, je vais me rapprocher des visuels. Voilà, on est parti. Là, c'est le challenge de la journée, le texte de Jimmy. Je vais donner ma langue au chat. Ok, d'accord. Et alors ?
T'as une idée, toi, Elvis ?
Moi, je pense que c'est le dernier combat.
Ah, c'était Fun Futur.
C'était Fun Futur ? Ok, d'accord.
Je me suis dit ça aussi avec Mutuel. Donc, tu dis CAF, la Mutuel.
Vas-y, dis-nous tout.
C'est pas celui vers lequel je me serais tourné le premier, je pense.
Ouais.
Mais justement.
Finalement, c'est lui qui t'a eu.
Il m'a eu parce qu'il était. Il y avait peu de gros visuels.
Ouais.
Finalement. Et il était fouillis et je me suis raccroché à deux trucs qui étaient café. Mmh. J'ai pensé à la CAF et j'ai pensé à ma CAF.
Ouais.
Mes démarches.
Salut! Alors, il y a un groupe de scouts juste à côté.
Il y a un groupe de scouts juste à côté. Et le lapin est là en retard, c'est juste la grosse montre qui est là.
Hein. Oui, ah là là.
Après, ivre virgule, c'est peut-être le vomi du lézard, ouais. Mais ça, c'était pas voulu. Et ouais. À la fin, c'est Noël et Saint-Valentin qui m'ont fait penser aux fêtes et aux jours fériés.
D'accord, ok, bah super, hein, t'es parti chercher...
C'est venu un peu d'un coup, ouais.
Bah non, mais c'est vraiment top. Ok. Poursuivi par le grand requin blanc, j'ai couru à en perdre le souffle. Consumé par le stress, je consomme ma détresse en espérant un jour me réveiller sur le dos d'un héros. Non mais franchement, ça serait pas trop beau. Et du coup, je donne un petit indice peut-être ?
Ouais, allez.
Je parle de requin. Alors, je ne sais pas si je vous dis si c'est le bon ou pas.
Bonjour, je m'appelle Elvis Cancy et voici mon texte. Il se pose des questions, regards clôturés, manipulés par les paroles. Les voyeurs cachés derrière les mots se réunissent parfois en cercle pour parler de demain. Les mots effacent les faits et la comédie garde secret la culture. Le divertissement effrayant nous laisse imaginer un futur sans guerre. Fin.
Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça, Kevin, le fruit de ton travail collectif avec les festivaliers ?
Vraiment plaisir de réécouter les voix, parce que généralement je suis en atelier, et quand je suis en atelier, effectivement, je peux écouter, mais j'ai un peu l'esprit aussi occupé, il faut animer tout ça. Et là, ça me permet de prendre du recul, tout simplement, et de pouvoir savourer un peu les textes et ce qui s'est dit, tout simplement. Donc ça me fait toujours énormément plaisir.
Bon bah super, bah merci à toi en tout cas, merci à toi Jimmy,
merci à vous,
et on remercie
Jimmy,
Elvis
ouais.
Qui nous écoute peut-être. Sans doute. Alors pour la suite de cette émission, nous allons avoir une petite lecture qui va être faite en fin d'émission. Je crois que c'est une lecture, c'est une forme peut-être sonore un peu hybride sur l'enfance et l'insurrection que nous préparent Nathan et Mathias. Et juste avant, nous allons retrouver... Johan et Alexandre. Alors, Johan et Alexandre, vous êtes presque prêts, c'est ça ?
Quasiment.
Oui, on se prépare.
Donc, en attendant, je vais lancer un petit jingle.
Parce que pour toi, ce sera mieux demain ?
Bon bah oui bon si tu veux bien on verra ça demain ouais.
Alors nous allons tester désormais le câble de diffusion. Alors là il faut savoir que nous avons installé une sorte de deuxième petit studio juste à côté de moi, donc juste à côté de la technique à l'intérieur de la Caradoc. Donc sur une petite table en ferraille verte, nous retrouvons 12 ordinateurs connectés à plein de petits objets qui vont nous permettre de faire plein de sons. Et nous essayons de tirer le câble jack afin que Johan puisse gérer de là-bas la diffusion. Parce qu'apparemment, c'est un conte, je crois, Alexandre, que vous avez préparé.
Je forle.
Oui.
C'est un conte à dormir debout, présenté en pleine journée et qui est lié au jardin vert où nous nous trouvons actuellement, où les conditions climatiques sont changeantes.
Intéressant. Et donc pour ça, vous avez ramené plein d'objets. Alors je sais pas, vous laissez deviner ou tu décris un peu tout ce que tu as ramené ?
Il y aura vraiment des éléments. Il y aura une mini poêle qui sert aussi pour faire du ping-pong quand on fait des tournantes et qui a plus assez de raquettes pour tout le monde. Il y a un clavier que Johan a acheté 1 euro dans un bazar et qui fait des sons comme ça. Il y aura évidemment l'éternel.
Il est magnifique celui-là.
Oui, la flûte à tirette. Mais ce n'est pas tout, il y aura encore d'autres éléments. Il y aura peut-être du carillon qui sera joué de manière carillonnante à travers le conte et qui est d'une durée que nous n'estimons pas encore avec précision.
D'accord, ouais, je vois qu'il y a
mais
tout
là, temps. On sent que tous les enfants sont massés autour de nous, se pressent à l'idée de pouvoir écouter ce conte qui risque d'être fantastique.
On y croit. Alors, est-ce qu'on teste la diffusion, Johan ?
Ah ouais, attends, 2 secondes.
Ah, ça on attend 2 secondes. Ça charge. Alors, je vois qu'un petit parasol vous a été installé. Alors, vous avez vraiment belle allure, là, vous êtes...
On est bien là.
Ouais, vous êtes très bien, je pense.
On est à la plage.
Ça va vous.
On n'aurait peut-être pas dû louer.
Vous mettre à l'abri de la pluie.
Début septembre à Angoulême, quoi.
C'est vrai qu'il pleut un peu là. On est un peu dégoûté pour cette dernière journée de festival.
Ben ouais.
On a quelques gouttes. On espère qu'on va pas se taper la
gousse. On va prendre des vacances en décalé début septembre et puis voilà en fait.
Exactement.
Tu veux que je te lance un son ?
Ah, on va tester un petit son.
Nestor, tu étais là. Sacré Nestor.
J'ai l'impression que ça marche.
Super ta bulle, Coco. Oh, super bien ajusté.
Comment ça va ? Ouais, pas mal, non ?
Ça va, ça va.
va bien.
Ok, ça va bien.
Et c'est magnifique. Alors, on est parti.
Quasiment, on a un petit son.
Un dernier petit son, les clés USB s'échangent. On prépare la liste de diffusion sur VLC ou alors quel logiciel utilisez-vous?
On a utilisé Live cette fois-ci.
Ah, ouais. Ça change un peu, c'est pas mal. Alexandre est en train d'envoyer un texto à Diego.
Oui, pour qu'il écoute, pour lui dire d'écouter la radio. Sieste.
Alors, enfant, c'est ça?
Je suis à vous, hein. Mais je suis un homme de réseau social.
Oui, Alexandre est très populaire. Il a d'ailleurs tout un tas de paparazzi cachés derrière les arbres juste à côté de nous.
Ouais, par contre, si vous pouviez éviter que les enfants tirent sur les câbles ou nous envoient des boulettes de pain pendant qu'on est en train de faire le compte, parce que là, c'est pour se préparer, c'est quand même pas évident avec tous ces enfants qui
sont...
C'est
vrai qu'il y a un petit peu de bordel, là. C'est pas très agréable.
Ouais, quelle marmaille, hein. L'enceinte ne fonctionne pas. Alors, l'enceinte ne fonctionne pas.
Voilà. L'opération réseau est réussie.
Et le petit bouton, elle doit être débranchée. Vous avez dû la débrancher parce qu'elle est en on.
Tu vois, c'est en fond escargot.
Elle a été débranchée sûrement, en fait. Donc, on a un retour enceinte qui ne fonctionne pas, mais on va s'y remettre. Mais c'est l'alimentation qui a été débranchée.
C'est pas pratique, ce produit.
Ouais, bah, t'as pas pouvoir.
Normalement, t'as une petite lumière bleue derrière quand ça marche.
Ah oui,
attendez.
Je n'entends pas, moi, le son des enfants.
Elle est bien branchée à la rallonge. C'est assez étrange. Voilà, alors tandis que Tom et Nausicaa tentent de faire marcher le second retour enceinte.
C'est pas censé être branché sur la carte son.
Si, ça l'est. Ah si, si, là-dessus, c'est bon. Si, on avait changé les réglages. Ah, petite discussion de réglages, hein. Mais tout va bien. Jimmy s'y met avec son casque de cycliste. As-tu besoin de ton casque de cycliste pour faire des réglages de matériel, ouais. Jimmy
Alors, je réponds avec un décalage parce que j'écoute la radio.
Ah. Et du coup, tu me réponds avec un décalage?
T'entends un truc, là?
Ah, Jimmy attend.
Non, je n'ai pas besoin de mon casque pour faire un réglage matériel.
Ah, il n'a pas besoin de son casque pour faire un réglage matériel. C'est magnifique. Eh bien, en tout cas, je vous propose de commencer si vous
Alors,
êtes prêts.
Alors, on peut susurrer un truc à l'oreille, Marie, c'est que on va te demander peut-être de présenter un tout petit peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, juste voilà, que c'est un conte, tout ça, avec une musique de choix que Joanne va envoyer.
Que je lance tout de suite, mais on n'a pas de retour. Ah voilà, ça y est.
Alors, chers auditeurs, bonjour, vous êtes sur le 101.1. Nous sommes au Jardin Vert, au festival Ce sera mieux demain. Et nous retrouvons Joanne et Alexandre qui, je crois, nous ont préparé un conte sonore pour enfants.
L'heure du conte, tous les
dimanches. L'heure du conte, sur Radio.
45, 13h15 à plus d'heure, pour les enfants.
Et pour les grands.
Auditeurs, auditrices. Imaginez, ici même où nous nous trouvons, il y a fort longtemps, le jardin vert était déjà vert. D'un vert beaucoup plus vert. Il y avait des cascades fantastiques, des toboggans naturels, des piscines d'eau chaude, des arbres majestueux dans lesquels vivaient oiseaux rares. En pagaille. Aucun mur, aucune barrière ne limitait le jardin vert. Il semblait infini. On pouvait dire qu'il était alors le plus bel endroit où vivre. Parmi cette nature luxuriante, vivaient en parfaite harmonie une peuplade d'enfants sauvages et des animaux fabuleux. Il y avait Coco le phoque qui passait son temps à manger des ananas glacés sous la cascade à bulles parfaites. Et il y avait aussi Nestor, l'éléphant caméléon. Qui ne faisait rien de particulier, mais dont l'œil bienveillant apaisait tout ce petit monde. Et là, écoutez un peu. Vous entendez ? Ce sont les enfants sauvages. Parmi eux, vous reconnaîtrez Picha, Berlingot, musette et cabriolet. Les quatre inséparables. Ils passaient leur temps à jouer, à faire la sieste, à faire des bulles avec Coco le phoque et jouer à cache-cache avec Nestor l'éléphant caméléon.
C'est moi.
Tous les matins, ils partaient à l'aventure et tous les soirs, ils rentraient pour retrouver leur petit bidouillet perché dans les arbres. Ce soir-là, ils rentraient heureux. Ils avaient fait de belles bulles et comme d'habitude, ils avaient fait semblant de ne pas retrouver la cachette de Nestor qui, comme d'habitude, s'était cachée derrière Jean-Pierre Larose, l'une des plus belles fleurs qu'on ait jamais vues ici. Sifflotant gaiement, la petite troupe avançait sur le chemin du retour. Ils n'étaient désormais plus loin de leur but. Il ne restait plus qu'à franchir le petit pont de singe, ce qui leur permettrait de rejoindre l'autre côté de la rivière et leur petit lit douillet. Mais stupeur!
Oh non! Mais Nestor! Tu serais pas passé par là?
Dit
oh
Picha.
Non! Mais Nestor! Tu serais pas
Picha
passé par là?
Picha n'en revenait pas.
Regarde, le pont est en miettes. Enfin, Nestor, on te l'a dit 100 fois déjà d'éviter de grimper sur le pont.
Comment allons-nous faire maintenant pour rejoindre nos lits douillets?
Allons bon, les amis n'allaient pas se brouiller pour si peu. Ils réconfortèrent Nestor qui avait l'air bien penaud tout d'un coup. Musette eut une idée.
Oh, mais regardez cette belle liane! Et si on s'en servait pour franchir la rivière?
Oh oui, bonne idée!
Oui!
Ouais! Ouais,
ouais, ok!
Comme vous le voyez, tout de suite l'idée fut adoptée. Musette, la première, se saisit de la liane, prit son élan et atterrit de l'autre côté de la petite rivière. Personne n'y prêta attention, mais Berlingot n'était pas du tout rassuré à l'idée de se suspendre à cette liane. Et il laissa passer plusieurs fois son tour. Tandis que Picha gagnait l'autre rive, bientôt suivi par Nestor, qui effectua une réception très remarquée sur ses quatre genoux.
Facile.
Cabriolet prit la suite, mais au moment où il gagna l'autre rive, crac!
Oh non! La liane est
cassée! La liane lui resta dans les mains.
Zut.
Mince flûte, zut et reflûte.
T'inquiète pas,
Leur ami Berlingot se retrouvait désormais seul de l'autre côté. Il fallait trouver une solution au plus vite.
Oh non! La liane est cassée!
Oh non! Zut!
Oh non, t'inquiète pas Berlingot, on va chercher Coco, il aura sûrement une solution.
Et nos amis allèrent chercher Coco, qui décidément semblait avoir la solution. Ses amis avaient beau essayer de rassurer Berlingot, celui-ci avait l'impression d'être coupé du monde. Déjà, il voyait la troupe s'éloigner, la queue de Nestor fermant le banc.
Mais pourquoi m'ont-ils abandonné?
Voilà la question que Berlingot se posait. Lorsqu'il entendit un énorme ricanement qui lui glaça le sang. Un ricanement terrible, à vous glacer les os, le sang, la chair, à faire frémir, à vous faire grimper les cheveux sur la tête. Un ricanement qui était décidément terrible, qu'on osait à peine se l'imaginer et le reproduire, tellement ce ricanement avait fait glacer les sangs. Non, cette fois, c'en était trop. Berlingot bouillait intérieurement. Il s'en voulait de ne pas avoir eu le courage de se saisir de la liane. Désormais, il était seul et abandonné. Et voilà maintenant que ses amis riaient même de lui. Et il n'y avait même pas l'œil bienveillant de Nestor pour le rassurer. Pris de colère, il tourna les talons, s'enfonça dans le jardin et dans la nuit de plus en plus épaisse.
Ah, la casquette, je peux bien me débrouiller tout seul.
Berlingot marcha sans se retourner. Ses petits poings serrés battant l'air autour de lui. Les arbres défilaient sur son passage. Et bientôt la cascade était déjà loin. Il s'aventurait dans des endroits où il n'avait jamais été. Et sans nul doute, personne de la tribu non plus. Et déjà, ses amis le cherchaient.
Où es-tu ?
Il le cherchait en vain. Désormais, Berlingot était hors de portée de leur voix, loin, trop loin. Tout d'un coup, le sol se fit moins tendre sous ses petits parageurs. L'air se fit plus sec et ses pas résonnaient comme jamais ils n'avaient résonné auparavant. Tout semblait creux et vide. La folle course de Berlingot prit soudainement fin. Après avoir heurté une énorme masse caoutchouteuse, l'enfant sauvage rebondit en arrière. Il reprit ses esprits, leva la tête et vit un engin prodigieux. Rien de commun avec ce qu'il avait déjà vu. Tout était carré, tranchant et scintillant. C'était en vérité un tractopelle dernier cri, un engin muni d'impressionnantes mâchoires. Cette fois-ci, la curiosité fut plus forte que la peur et Berlingot grimpa à bord de la cabine. Installé sur le siège, il se mit à toucher tous les boutons, à appuyer sur toutes les pédales. Un peu au hasard, un peu frénétiquement. La machine réagissait bizarrement, mais tout d'un coup, oui, il semblait se passer quelque chose pour de bon. La machine s'emballait et Berlingot était aux commandes. Tout à sa joie de piloter se jouait formidable. Il ne se rendait pas compte des dégâts qu'il causait sur son passage. En un rien de temps, les arbres furent couchés. Les roches s'écroulèrent et les rivières se tarirent. Les animaux durent s'enfuir, effrayés par ce vacarme. Le carnage se prolongea jusqu'à ce que la machine et Berlingot, qui ne faisaient plus qu'un, s'écroulent de fatigue. Alors, le petit jour s'éleva sur un tableau bien sinistre. Il ne restait du jardin vert, ce jardin verdoyant, à peine plus que ce qu'il restait aujourd'hui. C'était un spectacle désolant, vraiment désolant, mais pas pour tout le monde.
Wow, nice!
Mais que c'est beau!
Effectivement, j'adore le concept!
Oh, le concept est super!
Techniquement,
planifié à la perfection!
Cette agitation tira Berlingot de son profond sommeil. Il vit devant lui une rangée de petits bonhommes satisfaits en costume qui contemplaient à la loupe les dégâts qu'il avait commis pendant cette folle nuit. L'enfant sauvage ouvrit la porte de sa cabine et fut applaudi par ces petits hommes qu'on appelait
Les hommes de bureau.
Ouais. Bravo, formidable ce que vous avez accompli. Magnifiquement plat et avant-gardiste. Merveilleusement angulé, j'adore.
J'adore. Berlingot eut à peine le temps de comprendre ce qui lui arrivait que déjà les hommes de bureau se pressaient autour de lui. Ils lui tendaient des plans et l'assommaient de projets d'immeubles plus carrés les uns que les autres. Ses amis et l'œil rond de Nestor étaient bien loin maintenant. Berlingot eut à peine le temps d'y penser qu'il était entraîné par les hommes de bureau. Sa nouvelle vie commençait, il était devenu Berlingot, l'enfant du bureau.
Eh Berlingot, un petit café avec ce plan !
Petit Berlingot, dans ton grand bureau, petit Berlingot, ronge ses crayons.
Petit Berlingot doit se lever tôt,
ranger son bureau, petit Berlingot.
Fin de l'interlude.
Début de la deuxième partie.
Page 8. Caractère 18. Mais alors, qu'en était-il des enfants sauvages ? Que devenait-il désormais que leur territoire était devenu tout rikiki ?
Rikiki.
Partout autour d'eux se dressaient des immeubles, une forêt de formes hautes et carrées. Tout cela semblait inexplicable. Qu'avait-il bien pu se passer ? Comment du jour au lendemain ce havre de paix avait-il pu quasiment disparaître? Dans ces environnements hostiles, les enfants sauvages avaient dû apprendre à survivre. On ne les voyait plus comme avant faire des bulles avec Coco le phoque. Chaque jour, ils devaient se cacher dans le jardin, mais ce n'était désormais plus pour jouer. Même Nestor, l'éléphant camélon, devait se faire tout petit, et Jean-Pierre Larose avait dû se fondre dans un massif quelconque. Plus rien, non, plus rien ne semblait pouvoir redevenir comme avant. Moustiquette, la plus jeune de la tribu des enfants sauvages, s'ennuyait dans ce décor sinistre, que désormais les enfants sauvages ne quittaient que pour chaparder de nourriture la nuit, avec mille et une précautions. C'était toujours les mêmes histoires que se racontaient ses aînés, Pichat, Musette et Cabriolet.
Te souviens-tu du monde d'avant, quand Berlingot était avec nous, que nous faisions des bulles avec Coco, que la vue était douce, que les arbres étaient hauts? Maintenant, nous voilà parqués ici. Quel désastre! Si seulement nous pouvions savoir où est Berlingot!
L'œil rond de Nestor se remplissait alors à chaque fois de lourdes larmes. Moustiquette avait bien du mal à s'imaginer les jours heureux. Désormais, le temps semblait gris et pluvieux, menaçant.
Comme maintenant.
Elle ne voulait pas se résigner à ce triste sort, Moustiquette. Elle décida de retrouver la trace de Berlingot, le petit homme bureau. Elle interrogea Coco à son sujet.
Ah oui, Berlingot. C'était le seul qui faisait des bulles bien carrées, bien alignées. Qu'il était gentil, un peu colérique parfois, mais très mignon.
Moustiquette questionna aussi certains habitués du jardin, des vieilles personnes. Les seules personnes d'ailleurs que Moustiquette pouvait interroger sans crainte. Elles avaient l'œil moins vif, mais la langue bien déliée.
Ça c'est sûr que c'est très bien fait. On en a eu. On a eu de la chance d'avoir un petit homme bureau comme celui-là. Non mais oui, c'est vrai. Non mais je l'admets. Ouais. Il a quand même fait des beaux bâtiments, hein, si vous voulez. Maintenant, je suis quand même très contente de me balader dans ma ville. Je suis tout à fait émerveillée par son architecture. Ils sont carrés, ils sont droits, ils sont hauts. Bon, j'aime bien aussi les espaces verts, hein, mais c'est bien sûr. Hein, bon. Mais bon, c'est joli, quoi. Bon, c'est bien entretenu. Puis on aime bien s'y promener, hein, à mon âge. On aime bien flâner, on aime bien... Voilà, regarder, être assis sur les bancs, regarder les gens, bon, c'est quand même quelque chose de très agréable. Bon, voilà. J'ai répondu aux questions. Il y avait d'autres questions.
Moustiquette dégarpir pour ne pas être aspiré par
le souffleur de feuilles
qui passait par là.
C'est le petit gars là. C'est le petit gars qui habite en haut de la tour.
Qui était donc ce Berlingot?
Ah oui, ce petit. Comment il avait un prénom qui commençait par un B.
Oui, bah, j'avais dit quelque chose. Un prénom à l'ancienne. Un prénom à l'ancienne, oui, c'est ça.
Berlu.
Mais il a Berlu. Mais c'est toi qui l'as la Berlu. C'est pas possible, Michel. Mais attends.
Berlu. Attends, t'as raison. Mais tu les petits bonbons là, les petits bonbons qu'on mangeait là.
Mais t'es pas loin du compte. Je sens qu'on y est.
C'est quelque chose comme Berlin.
Berlingot, c'est super.
Écoute, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu.
Bon, ça fait longtemps. Bah, tu sais que le gamin, avant, on le voyait tout courir tout partout.
J'en entends qu'ils disent qu'il a un emploi du temps tellement chargé qu'il n'a plus le temps de sortir de chez lui.
Il arrive.
Plus le temps de sortir de son bureau.
Bon. Après, bon, il suffit quand tu portes des costards toute la journée, bon, ça n'a pas forcément envie de sortir.
L'enquête de Moustiquette avançait à grands pas. Les enfants sauvages n'avaient pas l'habitude de se séparer, mais cette nuit-là, Moustiquette osa s'aventurer hors du jardin vert. Elle s'était mis en tête de retrouver ce dénommé Berlingot. Comme tous les hommes bureaux, il habitait dans une tour. La sienne était, à l'image de sa réussite, immense. C'était bien simple, c'était la plus haute. On aurait dit que la lune avait dû changer sa trajectoire pour éviter de la percuter. Comment Moustiquette allait-elle gagner le haut de cette tour toute lisse? La solution était toute trouvée. Comme la ville était toujours en construction, il y avait partout d'énormes grues munies d'échelles qui s'élevaient jusqu'au ciel, grimpant de barreau en barreau. Moustiquette gagna le toit de l'immeuble. Et là, il y avait une toute petite fenêtre depuis laquelle Moustiquette put observer le visage de ce fameux berlingot, le petit homme bureau. Le petit homme semblait dormir d'un sommeil bien agité. Son lit était parsemé de plans et de crayons rongés. Moustiquette se laissa glisser dans sa chambre, mais au moment de se réceptionner sur ses pieds, elle heurta un gros bocal qui fit un énorme
fracas
en se brisant sur le sol. Berlingot bondit de son lit en hurlant. Ce qui effraya Moustiquette, qui prit instantanément la fuite, laissant le contenu du bocal éparpillé dans la pièce. Troublé dans son sommeil, Berlingot, l'enfant bureau, se réveilla de méchante humeur.
Oh, mais c'est pas vrai!
Il avait encore fait ce terrible rêve où il domptait des ronds pour les transformer en carrés, mais ces satanés carrés ne restaient jamais carrés bien longtemps et retrouvaient leur forme de rond. Épuisant, harassant. En plus, tout semblait le gratter, sa couette désormais le grattait, son oreiller le grattait, même son petit pyjama bienséant semblait le gratter. Il attribua cette irritation à tous les soucis qui l'accablaient. Comme il l'avait appris auprès des hommes bureaux, en face de telles angoisses, il n'y avait qu'une solution. Faire un jogging.
Footing. Il entreprit donc de descendre les 237 étages de sa maison.
Et d'une traite, il franchit l'immense porte dans son petit short de sport moulant ses fesses de petit enfant bureau. Sa colère était presque égale au jour où il s'était senti abandonné par ses amis. Il sillonna toute la ville de ses petites foulées. Quand il revint chez lui, il était fourbu, rincé, mais ni son short ni son maillot ne le grattaient désormais. Et oui, toute la nuit il avait couru, et toute la nuit, sans le savoir, il avait semé des graines. Ces graines contenues dans le fameux bocal que Moustiquette avait brisé par mégarde. Ces petites graines d'arbres et de fleurs sauvages étaient le seul souvenir du passé de Berlingot. Des petits souvenirs qui allaient avoir de gros effets. Le lendemain, quand il ouvrit ses volets, l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus le bruit du trafic incessant de moteurs et de roues, ni l'imperturbable cadence des pas mécaniques des hommes bureaux sur le pavé. Non. Désormais, on entendait frissonner le vent dans les feuilles, les pépiments des oiseaux, la clameur sauvage, cueillit Berlingot à son réveil. En une nuit, le jardin vert semblait s'être déployé à nouveau. Depuis son îlot de béton, Berlingot aurait bien regardé ce spectacle de plus près si ses yeux n'avaient pas été aussi fatigués par les années passées à consulter ses plans. Depuis un de ces arbres qui s'élançait de manière insolente jusque sous la fenêtre de Berlingot, les enfants sauvages, guidés par Moustiquette, observaient leur ami. Ils l'interpellaient comme au bon vieux temps, mais Berlingot avait du mal à les voir. Alors pour inviter leur ami à les rejoindre, les enfants sauvages lui envoyèrent une liane.
Allez Berlingot, prends-la!
Comme Berlingot n'y voyait décidément goutte, ce jeu dura un moment.
À gauche, c'est plus à gauche!
La liane prends-la. Le frôla à plusieurs reprises.
À droite, tu brûles, prends-la!
Allez-y, aidez-le vous aussi!
Allez, à droite! Allez Berlingot! À gauche! Prends la liane!
Oui,
rejoins-nous!
C'est assez infructueux! La liane vint lui flatter le nez. Berlingot fut alors saisi par l'odeur qui lui rappelait son enfance. Il pensa même à écrire le début d'un livre. Toutes les sensations perdues revinrent en lui. Les bulles, l'œil de Nestor, cabriolet, pichaille, musette, que des noms finement trouvés, tout cela semblait maintenant si proche, il n'y avait qu'un bond à faire. Berlingot avait désormais la liane dans la main. Alors cette fois-ci, sous les hurrahs de ses amis.
Hourra!
Hourra!
Berlingot!
Berlingot s'élança. Sa trajectoire, bien qu'un peu maladroite, fut presque parfaite et prit fin dans un bosquet.
Dans un bosquet! Un immense bosquet!
Moussu. Berlingot éclata alors d'un rire comme au bon vieux temps. Quelle joie de l'entendre rire parmi ses amis. Mais attendez! Écoutez un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce ricanement, ce terrible et cuisant souvenir pour Berlingot. Ça n'allait quand même pas recommencer. On n'allait pas encore continuer à se moquer de lui. Berlingot n'allait pas encore se vexer, les arbres être balayés et le jardin vert dévasté. Non, non, rassurez-vous, rien de tout ça. Allongé sur le sol moussu, Berlingot put alors voir qui produisait ce ricanement. L'auteur de cet étrange ricanement était là, descendu tranquillement depuis la branche où il était perché et désormais voletait auprès de lui. Il aurait fallu un don. Mais... Majestueux, vif et merveilleux, c'était un oiseau qu'on n'avait pas vu depuis si longtemps. Et Berlingot n'avait même jamais eu l'occasion de l'observer jusqu'alors. D'où sa confusion. C'était
l'oiseau ricaneur
du jardin vert, qui riait et ricanait. Alors c'était bien vrai, lui aussi était de retour. Tout était de nouveau imaginable dans le jardin vert. On allait de nouveau jouer près de la cascade et faire du toboggan. Oui. Et oui. Mille fois oui. Et c'est ainsi que Coco le phoque, Nestor l'éléphant caméléon et Jean-Pierre la jolie rose, Pichat, Moustiquette, Cabriolet, Musette et Berlingot reprirent leur activité comme si
c'était jamais... Super, t'as vu, Coco ?
Ah, super bien ajusté, bravo, impeccable !
Waouh !
Oui, donc Nestor !
Nestor !
Il est là, les gars !
Nestor !
Oh !
Nestor, tu étais là !
Sacré Nestor !
Ah tiens, salut Jean-Pierre !
Oh là là, que t'es belle aujourd'hui !
C'était l'heure du conte, tous les dimanches de 13h13 à 13h36. Sur le 101
point. 13h40. Petit conte réalisé par Alexandre et Johan.
Johan, avec les voix.
Avec les voix de Morgane, Fanny, Johan et Alexandre.
Merci bien.
Et les nuages.
Merci à toute l'équipe pour l'assistance technique.
Merci au parasol.
Merci à Musica pour le parasol.
Et
à vous pour votre présence.
Merci au public, si nombreux.
Et d'avoir aidé Berlingot à attraper la liane au moment où il le fallait. Reprise d'antenne immédiate. Marie, à vous les studios. On vous imagine que ça va bien. Vous êtes au loin, on vous imagine.
Je suis pas si loin que ça, je suis juste.
Ah, c'est toi ?
Juste à côté de vous. Et le temps. Et j'imagine que vous avez bien pris la pluie, ça va ?
Écoute, tout va bien.
Mais on
était dans l'ambiance.
À Angoulême au début septembre.
1er septembre, il pleut, c'est normal quoi, c'est la rentrée.
Bah, merci à vous en tout cas, c'était magnifique.
Merci aux enfants qui étaient là aussi.
Merci à tous les enfants.
Alors on continue toujours cette émission avec Mathias et Nathan qui nous ont rejoints dans la caravane. Et toujours sur le thème de la jeunesse, je crois.
Ouais.
Alors,
un, deux, check.
Vous avez prévu un petit quelque chose.
Exact.
Dont je n'ai pas encore une information très précise, donc je vais vous laisser présenter tout ça.
Ouais, on a prévu une petite discussion improvisée autour de l'enfance et l'insurrection. Parce qu'effectivement, Nathan dit Narcisse, dit le petit renard, dit le chaman de Sisyphe, dit l'artiste de l'abstraction... Généra intra relationnel, c'est ça ? Est-ce que j'ai oublié un titre ?
Je suis praticien généraliste aussi.
Ok, praticien généraliste. Donc en gros, voilà, on vous entame une petite discussion sur le thème, le lien entre l'enfance et l'insurrection. Du coup, il faudrait peut-être nous cadrer sur le temps. On a quoi, 20 minutes ? 20 minutes.
J'ai pas de micro par contre.
Ah, d'accord.
Je vais pas pouvoir cadrer beaucoup. Okay. Non, je vais essayer d'en choper un par là.
Ça marche. Très bien. Je vais essayer aussi de le faire. On va commencer peut-être par une petite lecture d'un extrait pour se lancer un peu. Il s'agit de Peter Pan, James Matthew Berry. Bien entendu, tous les garçons durent aller à l'école. La plupart entrèrent en troisième, mais la plume fut d'abord mise en quatrième puis en cinquième, la première étant le niveau le plus élevé. Au bout d'une semaine d'école, ils comprirent combien ils avaient été bêtes de ne pas rester dans l'île. Mais c'était trop tard. Bientôt ils se rangèrent et devinrent aussi ordinaires que vous ou moi ou Dupont Junior. Chose triste à dire, ils perdirent peu à peu le don de voler. Voilà. Petit extrait pour rappeler sur cette discussion-là que Peter Pan qui a été beaucoup repris de différentes manières, disneyisé. Peter Pan a été un petit peu retiré, éloigné de son aspect violent à la base, et notamment de sa critique sociale, sa critique de l'éducation et sa critique de l'enfermement finalement de l'enfant intérieur. Et c'est un truc qui peut-être peut devenir relativement agaçant quand on entend le terme de syndrome de Peter Pan, qui a été finalement associé directement à une pathologie, comme le dit le terme de syndrome. Et du coup, Nathan, je crois que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que toi, tu as fait de la recherche là-dessus, sur la question de l'enfance et de l'insurrection. Est-ce que tu peux déjà nous dire un peu comment ça se passe, pourquoi ça t'intéresse, qu'est-ce que tu fais?
Alors, c'est marrant, parce que quand on parle dans une radio, ça fait tout de suite beaucoup plus sérieux. Ça fait un ton qu'on met comme ça, tu vois là, ça...
C'est moi là qui te joue aussi. Hein.
Ouais, bah oui, je sais pas si j'ai envie de le jouer. Je vais faire...
Non, mais t'es pas obligé.
Non, d'accord. Bon, on peut essayer un des trucs, je sais pas, mais... Non, bah, pas...
Si tu veux, je peux faire Ardisson si tu préfères.
Ah bah, faire Ardisson. Non, enfin, je sais pas si j'ai fait des recherches là-dessus, enfin, j'en sais rien. Non, c'est qu'en fait... Bah, moi, je me rends compte que dans les études que je fais, les recherches que je fais de manière très floue, cette question-là revient, en fait. Et là, justement, quand on parlait de l'enfance... quand on disait voilà, est-ce qu'on n'improviserait pas un truc à faire, bah du coup ça me faisait rappeler pas mal de choses, et là du coup voilà, j'ai l'impression que ça permet de coller pas mal de choses dans mes recherches. Et donc il y avait l'idée de enfance et insurrection. Je sais pas si insurrection c'est le bon terme, il y a le terme de constructivisme qui sont intéressantes. Moi ce qui m'intéresserait c'est de dénaturaliser la vision de l'enfance qu'on a, en fait. Je crois que le tu parlais du coup de Peter Pan, et ça marche bien pour ça, et Disneyland aussi. On a ce côté, l'enfance c'est édulcoré, c'est un monde qui est pas qui pense une sorte de petite bulle, tu vois. Et tu vois les dessins animés aussi, c'est des trucs, tu vois, très enfantins, enfin en fait très enfantin, mais c'est pas ça, c'est très édulcoré, très des gros yeux, tu vois, des couleurs criardes, rose pastel, tu vois, des traits toujours une sorte de douceur, tu vois.
On a le terme aussi infantilisant.
Oui, c'est un concept, ça, le sucre. Tu vois, le sucre aussi comme drogue, en fait, c'est la drogue, le sucre, à ce niveau-là, quoi. Mais, est-ce que c'est pas une instrumentalisation de l'enfance aussi par rapport à ça? Parce que si tu lis justement les textes, par exemple, je sais pas, moi j'ai grandi un peu sur des trucs comme ça, tu sais, les fables, les contes populaires, tu vois, qui sont en fait ultra violents, enfin, tu vois, tu te fais manger par des loups, des trucs, enfin, mais c'est grave, des trucs très très graves, quoi, qui te font super peur, quoi. Et la peur. Tu vois, elle apparaît pas justement dans ces dessins-là, quoi. Dans ces dessins animés-là, dans tous ces trucs-là. Dans Disneyland, tu vois. C'est toujours un truc. Et je me demande, c'est pas des parcs faits pour les adultes, en fait. En fait, pour une. Bah, c'est d'abord ça. C'est la projection fantasmée de l'adulte, en fait, par rapport à ça. Et parce que justement, c'est comme si on voulait évacuer tout l'aspect, toute la peur, toute l'angoisse, en fait, toute la violence de quelque chose.
Tu es allé à Disneyland ?
Oui, je suis allé, ouais, c'est Disneyland.
Okay. La seule expérience que j'ai eue à Disneyland, c'est qu'effectivement, on était 80% d'adultes et 20% d'enfants.
Ouais, mais c'est pas anodin, hein. C'est un truc. Et parce que cette vision-là de l'enfance, ça c'est marrant, mais c'est l'image qu'on a du Corée de l'enfance, c'est une image qui passe par ces images-là tout le temps, en fait. Par la télévision, tu vois, par Disneyland, par ce qu'on donne les adultes aussi, un truc. Mais si on y réfléchit, moi je me rendais compte quand j'étais enfant, c'était pas ça que j'avais comme vision du monde. Mmh. C'est une vision beaucoup plus sensible, tu vois, un rapport aux choses. Direct, quoi, et aussi des grandes peurs, des grandes angoisses aussi qui n'étaient pas passées, quoi. Il y avait, alors, on peut le citer du coup, parce qu'on n'a pas le droit de mettre des musiques parce que c'est la SACM et tout ça, mais il y a.
On n'a pas le droit.
On n'a pas le droit, c'est interdit. Faut pas faire des choses interdites. On parle d'insurrection, mais on ne la fait pas. Et non, c'est le.
Surtout qu'on ne veut pas payer.
Ouais. Et
c'est cher.
C'est ce que j'ai pensé, enfin, tu sais, donc Yael, là, qui dit, alors je sais plus, j'ai pas noté les paroles, mais. Bon, elles sont un peu bateau comme parole, et en même temps, je les trouve très justes. Tu sais, ça fait « je chante, je danse ». Enfin, ça fait « je chante et je pleure comme un enfant ». Tu vois ?« Je joue à me faire peur comme un enfant ». Et je me disais, mais en fait, finalement, est-ce que l'enfant, on dit « tiens, c'est quelqu'un qui est joyeux que ça ». Est-ce que l'enfant, au contraire, le vrai enfance, c'est pas pleurer et jouer à se faire peur ? Tu vois ? Donc, on joue à se faire peur parce que on... Ça, comment dire ça ? Parce qu'en tant qu'adulte, on ne joue plus à se faire peur, en fait. On a vraiment peur. Alors qu'en fait, la peur, c'est d'abord un jeu, tu vois. Mmh. Et quand tu pleures, c'est justement que t'es dans le... Est-ce que être adulte... Est-ce que l'enfant, c'est pas justement quelqu'un qui pleure ? C'est la question que je me posais, tu vois.
Mmh. Et toi, tu m'as parlé aussi de l'image que t'aimes bien de l'enfant avec des masques de monstres.
Ouais, si bien de me recadrer. ouais, bah justement, c'était... Alors, est-ce que je l'ai là Bon, on s'en fout, c'est la radio, donc ça, ouais. on va dire que je l'ai sous la main. Mais ouais, c'est une image, en fait. Alors tiens, je peux peut-être donner celle-là, par contre. C'est une image, en fait, que... qui est dans une petite brochure, que j'aime bien, qui s'appelle où est-ce qu'elle est, je sais plus.
Là, il est en train de trier dans un tas de livres, un infokiosque
que j'ai
retrouvé sur internet.
C'est vrai que vous avez ramené beaucoup de lectures là, ça vient d'où toute cette bibliographie?
C'est la maison de Nathan, en fait elle est faite de livres. comme dans les contes aussi. Alors, il fait des murs en livre.
Enfin, je l'ai pas emmené, c'est bizarre.
C'est passé à l'utopie.
Peut-être. Il enlève des pans de murs, effectivement. Et il les ramène ici. Et c'est, ouais, c'est trouvable sur infokiosque.net, tout ce qu'il va citer.
Voilà. Alors, bah là, bon, alors, il y a. Donc là, en effet, c'est. La prochaine que je vais trouver, c'était Nous ne sommes pas des étudiants, nous sommes des délinquants. Mmh. Et. Qui justement revendique une espèce de sauvagerie, quoi. Un truc de côté, on en a marre d'être sage, on en a marre de correspondre au rôle social d'étudiant qu'on demande d'être. Et nous, on veut juste tout détruire sur notre passage, on veut juste exister sans coller à une apparence, sans coller à quelque chose, et juste être dans une espèce de déchaînement des passions romantiques, un truc comme ça. Bon, c'est quelque chose qu'il y avait déjà chez. Quand sont beaucoup situationnistes, en fait, avec. Et ça, je crois que je l'ai, mais bon, je vais pas le sortir. De la misère en milieu étudiant, en fait, qui était. Un tract avait été diffusé en 68, je crois, à Strasbourg. Ça fait un peu scandale à l'époque. Et en fait, ça disait que être étudiant, c'était une identité sociale, en fait, qui préparait la vie d'adulte, qui était dans ce truc-là entre l'enfance et, et l'adulte, quoi. Et en même temps, c'était une catégorie qui était super intéressante parce que comme elle était en transition, en fait, il n'y avait rien
à
perdre.
C'est un parasol qui tombe. Ouais.
Ça, c'est le vent qui fait sa révolte. Là, c'est le début encore.
C'est bon, ils ont accouru, ils vont pouvoir sauver le parasol. Nous allons pouvoir continuer sereinement à l'abri. Hein.
C'est vrai qu'on est bien là. Merci de nous avoir invités à l'intérieur, du coup.
Oui, c'est vrai qu'on est beaucoup mieux. Les livres prennent l'eau et tout. Et donc, il y avait cette idée-là qu'en fait, l'étudiant, c'est un adulte qui n'est pas encore pris au piège dans un salaire, avec un patron, avec une famille à nourrir, avec un homme ou une femme, avec les caractères de la famille hétérocentrée, etc. Et que donc, du coup, il y avait c'était un peu d'un moment où on pouvait encore se révolter, quoi. C'est ce côté de révolte étudiante, quoi. Et c'est après, voilà, c'est inspiré aussi 68, etc. Et bon, moi, j'aimais bien ce truc-là. Et donc là, je vais peut-être lire un passage d'un film, en fait, qui s'appelle « Et la guerre est à peine commencée », qui est un peu dans ces mouvements-là aussi. Donc c'est anonyme, hein, comme, même si bon, ça ressemble beaucoup à ce que fait le Comité Invisible. Mais...
Et ça, on peut le trouver sur Internet aussi. « Et la guerre est à peine commencée ».
Alors celle-là, ouais. « Et la guerre est à peine commencée », on peut le trouver sur Dailymotion, je crois, le film en question. Et le texte, il est trouvable sur Infokiosque, il est diffusé aussi sur infokiosque.net. Donc j'y vais, du coup. Les pères ont disparu d'abord. Ils sont allés à l'usine, au bureau. Puis, à leur tour, les mères, elles sont allées à l'usine, au bureau. Et chaque fois, ce n'étaient pas les pères ou les mères qui disparaissaient. C'était un ordre symbolique, un monde. Le monde des pères s'est effacé d'abord, puis celui des mères. L'ordre symbolique de la mère, que rien jusque-là n'était parvenu à ébranler. Et cette perte est si incalculable, et c'est un deuil si total que nul ne consent à le faire. L'Empire résume ce désir qu'un néo-matriarcat prenne mécaniquement la relève du patriarcat défunt. Et il n'y a de révolte plus absolue que celle qui défie cette domination bienveillante. Ce pouvoir chaleureux, cette emprise maternelle. Les enfants perdus sont les orphelins de tous les ordres connus. Bienheureux les orphelins. Le chaos du monde leur appartient. Tu pleures sur ce que tu as perdu. Nous avons tout perdu, en effet. Mais regarde autour de nous. Nous avons gagné des frères et des sœurs. Tant de frères, tant de sœurs. À présent, seule cette nostalgie nous sépare, à charge d'inédit. Tu vas, tu es perdu. Tu ne trouves nulle part le maître de ta valeur. Tu vas et tu ne sais pas qui tu es, et tu es sans valeur, comme le premier homme. Va par les chemins. Si tu n'étais pas si perdu, tu ne porterais en toi pas une telle fatalité de rencontre. Bon, je continue encore. Parce que c'est bien quand même.
On sent que t'es pris dedans, vas-y.
Si tu n'étais pas si perdu, Ben, tu ne porterais pas en toi une telle fatalité de rencontre. Fuyons. Fuyons. Il est grand temps. Mais je t'en prie, fuyons ensemble. Regarde nos gestes. La grâce naissante au-dedans de nos gestes. Regarde nos corps comme ils s'échangent avec fluidité. Comme cela fait longtemps que tant de gratuité ne s'est pas abattue sur le monde. Vois cet abandon, comme il est beau que rien ne nous atteigne. Mais tu le sais, il y a encore des murs contre ce communisme-là. Il y a des murs en nous, entre nous, qui sans cesse menacent. Nous ne sommes pas quittes de ce monde. Il y a encore la jalousie, la bêtise, le désir d'être quelqu'un, d'être reconnu, le besoin de valoir quelque chose et pire, le besoin d'autorité. Ce sont les ruines que le vieux monde a laissées en nous, et nous n'en sommes pas quittes. À la lumière de certains projecteurs, notre chute nous fait parfois l'effet d'une déchéance. Où allons-nous ?
Bah, tu vois, toi aussi, tu te mets en scène un peu.
Bah. Ah, ça c'est intéressant. Tu dis que je me mets en scène. Pourquoi tu dis ça ?
Bah, je sais pas, parce qu'il y a un peu de tension dans tes propos. Il y a des silences qui marquent chacun de tes mots. T'as changé de ton aussi, ta voix a changé.
Et alors, ce qui est intriguant, et ça c'est très très bien, tu dis que c'est une mise en scène. Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse ?
C'est-à-dire ? Que c'est ton toi profond ?
Ouais, alors bon, toi profond, ça suppose une sorte d'essentialisme, ou je sais pas. Mais on peut se dire peut-être que. Là, tu vois, en effet, il y a des silences et ça apparaît comme une autre chose, tu vois. Mais là, c'est surprenant parce que, tu vois, on prend le micro et tout de suite, on parle différemment que quand on parle entre nous, tu vois. Enfin, il y a un truc beaucoup plus posé, beaucoup plus formel, tu vois. Et là, quand je lis ça, comme, en effet, je fais un effort. Ça demande un effort, au début en tout cas, de lâcher, de trouver, s'autoriser au silence. Comme si c'était plus difficile aussi à faire. Comme quand tu lis un poème, quelque chose comme ça, en fait. Ça demande. Et en même temps, dans ce cas-là, je me sens, moi, plus vrai. Quand je fais ça, j'ai l'impression, comme quand tu vois, tu sais, des fois une pièce de théâtre ou un truc du cinéma ou quoi, c'est comme si ça touchait quelque chose en toi de profond, qui te fait montrer, en fait, qui te révèle le rapport fictionnel du monde extérieur, en fait. Et ce que je trouve du coup un peu là-dedans, tu vois, et je crois que c'est ce qui est cherché aussi là-dedans, en fait. Et justement, les situations, non, pas sur le situationnisme, mais c'est super du coup, c'est il y a ce concept de spectacle. Chez Debord, tu vois. Et en fait, il reprend ça de. Merde. Brecht.
Ouais, bah. T'as dit merde à la radio ?
On a le droit de dire merde, non ?
Ou pas ? Avec
on a tous les droits.
D'accord, on dit des gros mots parce que c'est l'enfance, donc. Pareil, tu vois, gros mots, c'est un truc encore très. c'est naze, quoi, je veux dire. On interdit aux enfants de parler, quoi, c'est incroyable. Et. rebellez-vous, dites des gros mots. Et. Dans le spectacle, cette idée que. En fait, on est pris dans une pièce de théâtre, quoi. Tu vois, la vie est un théâtre, et qu'en fait, on ne fait que jouer des rôles là-dedans. Et que justement, comment mettre en place des outils, comment faire pour que on puisse sortir de cette pièce de théâtre et se rendre compte que tout ça, c'est faux, finalement, et qu'on peut trouver une extériorité. Mais cette extériorité, depuis la pièce de théâtre, on la voit comme quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais en fait, si on se place depuis cette point de vue d'extériorité, on comprend qu'en fait, ce n'est qu'une pièce de théâtre qui se joue. Qui se croit en fait le monde alors qu'en fait ce n'est qu'une fiction.
Donc du coup si je reprends sur le thème de l'enfant et l'insurrection, ça veut dire que tu es en train de dire que l'enfant est un état, c'est notre premier état et on évolue dans un espèce de monde qui nous met en scène. Donc on a l'enfant perdu, l'enfant sauvage, cette figure là un peu de l'enfance et on se perd dans une mise en scène et justement c'est là où se développe du coup cette espèce d'enfant intérieur avec lequel on dialogue perpétuellement. Et cette espèce d'adulte extérieur qui est le masque. Quoi.
Oui, en fait, alors tu parles d'enfant intérieur, c'était cette théorie-là en thérapie que voilà qu'en fait on quand on devient adulte, on perd le contact avec l'enfant qu'on a été et on va essayer de retrouver un dialogue avec cet enfant-là. Mais c'est une image en fait, une métaphore. Il y a En effet, c'est un petit peu ça, quelque part. Je suis un peu, fais un peu cette vision-là. Et en même temps, je me pose la question de voir comment ne pas tomber dans un travers qui consisterait aussi à objectiver, en fait, une sorte d'enfance fantasmée qu'on essaie de retrouver comme ça. J'ai l'impression que c'est encore une fois un point de vue adulte, en fait. Se dire qu'il... pareil, comment ne pas regarder cette ça comme une sorte d'extériorité, mais plutôt être dans une déconstruction, comprendre qu'en fait... l'enfant n'est pas, enfin, tu vois, c'est pas l'enfant comme une catégorie positive, si tu veux. C'est juste, c'est ne pas être adulte. Hein, c'est un rapport là quoi, en fait. Le problème, c'est pas l'enfant, c'est l'adulte, en fait. Et on voit l'enfant du point de vue encore adulte, tu vois. Et donc sous ces critères là, et qu'en fait, tant qu'on sort pas de ce regard, de ce positionnement, en fait, du point de vue adulte, on peut pas du coup intégrer ce rapport là, parce que c'est peut-être quelque chose même qui s'inscrit dans le langage lui-même. Il y avait un rapport avec, il y a le terme sauvage, du coup, je trouve intéressant. C'est pareil, comment parler du sauvage sans déjà utiliser des catégories, en fait, qui intègre un binarisme entre ce qui est sauvage et ce qui est civilisé, tu vois. Et donc, du coup, déjà, c'est déjà un point de vue civilisé de parler de sauvage, tu vois. C'est parce que, tu vois, donc, c'est, voilà, c'est, moi, c'est un peu le basculement-là, en fait, qui m'intéresse dans ce rapport-là. C'est en effet une pensée aussi un peu, enfin, constructiviste, en fait, c'est ce terme-là. C'est-à-dire que, c'est un truc qui me gêne, du coup, je crois qu'on considère le, tu vois, ce rapport enfance-adulte de manière essentialiste. Alors essentialiste, ça veut dire que c'est quelque chose qui serait déjà là, c'est naturel, tu vois. C'est quand t'es petit, t'es enfant, c'est normal que du coup tu vois le monde et que tu fais n'importe quoi et que tu t'amuses, etc. Mais quand t'es adulte, c'est normal par contre d'être responsable, tu vois, c'est quelque chose de normal. La pensée constructiviste, elle va dire bah non, en fait, c'est quelque chose qui va être lié à un discours social. C'est la société qui va t'autoriser, qui va t'imposer en fait des rôles, des comportements, des manières d'être, qui fait que quand tu sors de ces cases-là, en fait, on te rabat dessus, quoi.
Du coup, peut-être pour terminer là-dessus, est-ce que tu...
Ça va finir après ? Non, non.
Ouais, ouais, et puis après, ce serait bien qu'on mette aussi ton morceau parce qu'il me fait marrer.
Ouais, d'accord, d'accord.
On termine dessus. Juste pour terminer, du coup, tu penses que la meilleure des insurrections, ça serait une insurrection de l'enfance ?
Bah, en fait, enfin... ça peut être une insurrection... On va peut-être finir là-dessus, du coup, je... Parce que du coup, il y a plein de trucs à dire. trop court, tout ça. Mais bon, c'est tout le temps comme ça. En fait, il y a.
On a encore un peu de temps.
Hein ?
On a encore un peu de temps.
Un peu de temps, là, bon, ça va. Si on... Bah oui, il y a. Y a bah, là, bon, là, j'ai tout la main, tiens, Edouard Louis, là. Il disait un truc qu'en fait. Je pourrais lire le passage, mais en même temps, il est assez hardcore aussi. Que. Tiens, ouais. Bon, je parle. Quand Edouard Louis parle, il dit voilà. Enfin, bon, j'ai pas pu le retrouver dans ce livre-là, mais cette idée que, en fait, avec le racisme, l'homophobie, enfin, les gens qui ont vécu ça, et moi aussi je le comprends comme tel maintenant aussi, c'est comme si on leur avait volé leur enfance, en fait. Comme s'il y avait justement une cassure qui avait été faite, comme s'il y avait le trauma adulte qui leur appartenait pas directement. Ils étaient pris dedans, ils étaient pris dans quelque chose qui vient régler, donc on leur a volé leur enfance. La colère, en fait, qu'ils ont aussi, c'est la colère de cette enfance perdue, en fait, qu'ils n'ont pas pu vivre, quoi. Et, bon, voilà, mais ça, c'était pas grave, je vais faire venir.
En fait, tu parles d'Edouard Louis, qui a tué mon père, c'est ça ?
Oui, ça a tué mon père, voilà. En fait, bon, alors, au début, alors, je pensais que c'était là-dedans, mais en fait, c'est dans un autre bouquin, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, il y a un rapport comme ça, très dur, vraiment, c'est... Je peux juste peut-être lire la dernière phrase... Si l'on considère la politique comme le gouvernement de vivants par d'autres vivants et l'existence des individus à l'intérieur d'une communauté qu'ils n'ont pas choisie, alors la politique, c'est la distinction entre des populations à la vie soutenue, encouragée, protégée et des populations exposées à la mort, à la persécution, au meurtre. Et j'ai l'impression que c'est ce rapport-là, en fait. C'est finalement le binarisme adulte-enfant, peut-être le comprendre tout là-dedans, dans un truc de des gens qui sont dans un espace protégé, en fait, et d'autres qui sont justement pris dans ce rapport de meurtre, le trauma, quoi, le truc justement qui... La dissociation, quoi, un rapport dissocié, quoi, quelque part. En fait, on pourrait être enfant toute sa vie, je me dis, quelqu'un qui n'a pas à souffrir, est-ce qu'il ne peut pas être quelque part enfant ou... Et est-ce que c'est pas... Moi, je pose la question, du coup, d'une subjectivité. Est-ce que être enfant, c'est pas... C'est ça que j'essaie de comprendre, en fait, un certain rapport à la subjectivité, une manière de... Un rapport au monde qu'on peut penser comme un mode de construction de la subjectivité. Et dès le moment où on rentre dans un rapport traumatique, on rentre dans un monde de construction adulte, tu vois, qui rationalise, qui met des mots, qui met du langage, qui représente les choses. Et on n'est plus dans un rapport directement sensible aux choses.
Je le relis justement à un autre truc que je te parlais ce matin, c'est la domestication du corps dont on n'a pas parlé. Parce que finalement, il y a plein de choses, effectivement, tu as raison, dont on peut parler. Mais j'aime bien ce thème aussi de domestication du corps, qui est relié un peu aussi à la lutte féministe, qui disait du coup qu'avec l'état fort et la centralisation des pouvoirs, il y a eu cette histoire de contrôle un peu du corps, et notamment du corps de la femme, évidemment. Et du coup, je trouve que pour l'enfance, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que cette liberté, cet état libre en fait, de l'enfance, et comme tu disais tout à l'heure, on autorise les plus jeunes, en tout cas, à faire un peu n'importe quoi, et puis tout d'un coup, on domestique le corps. C'est-à-dire qu'il faut, y a des normes qui s'installent, une entente, hein, plus ou moins dite, en fait, plus ou moins comprise ouvertement. En gros, bah, c'est ça, c'est la maîtrise du corps en société, quoi. Qu'est-ce que t'en fais, etc. Et finalement, ce corps qui t'appartient à la base et dont tu es le seul maître devient une espèce de corps qui fait un peu objet en société. Je voulais juste voir ce que tu t'avais à redire dessus.
En fait, il y a peut-être même deux trucs sur la question du corps. Il y a un contrôle par l'esprit, il y a un contrôle, on va dire, peut-être lié au biopouvoir, c'est-à-dire par les substances et par une emprise directe, quoi, au corps. En effet, c'est toutes les techniques de conditionnement, tu vois. Enfin, déjà, il y a les institutions, déjà elles-mêmes. C'est-à-dire que l'école, par exemple, est-ce que l'école est là pour apprendre un savoir ou est-ce que sa fonction cachée, c'est pas de t'apprendre, apprendre au corps à être 8 heures par jour assis à une table et à maîtriser son attention, en fait, donc à contrôler ton attention, contrôler ton œil et ton esprit, à écouter quelqu'un pour pouvoir répéter ce qu'il va dire juste après, tu vois. Donc c'est en effet un outil de contrôle, en fait, de contrôle du corps par rapport à ça. Il y a donc en fait, mais c'est plus un contrôle de l'esprit à ce niveau-là, tu vois. C'est comme si, parce que c'est bon, c'est dans ce bouquin là de Sylvia Federici, la Caliban et la sorcière, j'ai beaucoup aimé ce truc là, que il y avait un basculement au moment de la chasse aux sorcières avec Descartes et Hobbes, et Hobbes disait on va essayer de contrôler les corps, on va contrôler les corps pour avoir un état total, un état global comme ça, et Descartes a dit bah non, c'est pas la peine, on a juste besoin de contrôler les esprits, et les esprits contrôleront le corps, quoi. Et j'ai l'impression qu'on nous apprend ça, en fait, tu vois, à l'école, au travail, dans les hôpitaux psychiatriques, etc. C'est toujours mettre en corrélation le corps avec la pensée pour que la pensée, la représentation, l'esprit, en fait, ce qu'on considère comme normal, comme normé, que le corps respecte ça, en fait, respecte la loi de l'esprit, en fait, toujours. Et la pathologie, c'est ça aussi, la psychiatrie. C'est pour ça que Foucault a travaillé d'ailleurs sur ça aussi, c'est pas anodin. La psychiatrie, c'est toujours un truc où on considère ce qui est normal et ce qui est pathologique, et quand c'est pathologique, il faut que tu te forces à ce que ton esprit corresponde à faire ce qui est bien. Et en effet, tu vois, l'école, l'éducation, beaucoup, est un contrôle du corps. On ne t'éduque pas, enfin difficilement, je trouve, à l'école, sauf un peu en maternelle, à écouter son corps, à aller vers là où tu te sens bien, tu vois, à laisser faire le corps, en fait. Mais on se dit, quelque part, il faut contrôler son corps, il faut canaliser l'énergie du corps, quelque part, quoi. Tu vois, c'est outil de canalisation, quoi. Voilà, bon, ça, c'est voilà, il y a un biais comme ça. Après, il y a aussi un autre truc, bon, sur la question du corps, c'est une question que je me posais aussi tout à l'heure, mais quelque part, c'est aussi les formes de canalisation, hein. C'est-à-dire qu'on peut peut-être avoir une analyse marxiste, en fait, aussi, de ce truc là de est-ce que tous ces dispositifs là sont pas des manières de capturer l'énergie vitale, en fait, tu sais, on peut le voir comme, tu sais, il y a un côté, si on fait un peu sur de marxisme ou quoi, c'est comme s'il y avait une énergie, tu vois, une énergie vitale qui était là, et qu'en fait la société essaie de capturer cette énergie vitale pour la canaliser spécifiquement sur des outils qui vont être des objets valorisés, tu vois, la marchandise, le travail, voilà. Et donc l'attention, le corps, l'énergie, la force de travail, enfin ça va être amené vers la force de travail, quoi, justement. Donc c'est une vision très complotiste comme ça, mais c'est ça un petit peu, tu vois, de être adulte, ça serait ça, justement, peut-être, d'évacuer toute décharge énergétique qui n'est pas utile, en fait, socialement. Donc quand t'es enfant, ce qu'on dit, voilà, quand on est enfant, il y a plein de choses que tu peux faire que quand t'es adulte, on considère ça comme de la folie. Avoir un ami imaginaire, je sais pas, juste courir dans la rue parce que t'es contente,
faire de la bouillie avec son pipi.
Oui, enfin voilà, enfin c'est, et
en plus, seul à faire ça.
Faire quoi, tu dis
la bouillie avec son pipi.
La bouillie, mais quand tu fais de la bouillie avec ton pipi?
Je sais pas, tu sais.
En mélangeant avec ton caca, quoi. Et tu fais un truc, ouais, un peu visqueux.
Ouais, chercher un truc organique et dégueulasse.
Mais je vois, regarde, quand t'es enfant, il y a un truc. Ça, j'avais pas pensé à ça. Donc, c'était un bouquin dessus, mais je me souviens plus du titre, parce que je l'ai pas lu. C'est des chercheurs qu'on...
Manger ses crottes de nez.
C'était pas loin. C'était. Ça part du caca, justement. C'est-à-dire. En fait, ils sont. Ils se sont posés la question de se dire, mais pourquoi les enfants, est-ce qu'ils disent que les enfants, et puis pourquoi revient toujours caca pipi tout le temps, quoi. Ils font que de parler de caca pipi, tu vois. Ils se sont dit, mais c'est incroyable, tout le temps ça, quoi. Et puis ils se disent, mais en fait, ils parlent tout le temps de ça, mais en même temps, c'est l'âge aussi où on apprend la propreté en permanence. C'est-à-dire que les mots tabous, c'est précisément caca pipi, tu vois. Et pareil, tu vois, les gros mots, ça va être merde, c'est tout, c'est la sexualité, tu vois. C'est que finalement, tout ce qu'on fait aux enfants, c'est toujours axé sur des tabous. Tu vois, le tabou de la sexualité, le tabou de tout ce qui est le déchet, ce qui est rejeté par le corps, mais le déchet, c'est une construction sociale aussi, ça correspond aussi à l'hygiénisme. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on diabolisait pas les sécrétions du corps, c'était quelque chose qui n'était pas considéré comme un tabou, comme un truc. Et c'est avec l'invention des toilettes, tu vois, de tout l'hygiénisme, et puis en fait, de toute une. Presque un truc un limite eugéniste, tu vois, où il y a des choses qui sont pas bien, le déchet, le pathologique, tu vois, des choses qui sont liées à la bonne santé, tu vois. Mais avant, c'était pas parlé comme ça, quoi. Et c'est comme si, bah, en fait, on remettait ça sur les enfants, quoi, tu vois. On leur fait comprendre ce qui est bien, ce qui est pas bien, tu vois, ce côté moral, quoi, tu vois. Et puis, bon, quand t'es enfant, tu comprends pas au début pourquoi. Parce que t'as un rapport à ça qui est un rapport direct, tu vois, frontal, quoi, en fait. Donc c'est comme s'il y avait, voilà, ça rejoint encore cette idée un peu de constructiviste de. Je me dis ce qu'on. Toute cette éducation de la propreté, de l'éducation, de ce qui est normal de faire, de ce qui est bien, des relations sociales qui sont, tu vois, c'est comme si on essayait toujours de cadrer par le langage, en fait, et d'imposer un langage, justement, à un animal, parce que l'enfant, c'est pas un animal, tu vois, quelque part. Et moi, du coup, je sais pas, parce que je peux peut-être lire un passage, parce que c'est pas de vie.
Vas-y.
Allons-y. Ça, c'est Giorgio Agamben.
Je sens qu'il ne faut pas qu'on aille plus loin parce que là ça commence à bouillonner et il y a un moment donné, ça part dans tous les sens.
si vous voulez passer un morceau après, vous avez encore 5 minutes et ensuite vous pourrez passer le morceau. Okay. En gros, il nous reste 10 minutes.
D'accord, bon, le morceau fait 5 minutes. Donc
ouais,
ça,
bah, très bien.
Alors, du coup, j'y vais. L'exposition est le lieu de la politique. S'il n'existe pas, peut-être, de politique animale, c'est uniquement parce que les animaux, qui vivent sans cesse dans l'ouvert, ne cherchent pas à s'approprier leur exposition et restent simplement en elle sans s'en soucier. C'est pourquoi ils ne s'intéressent pas au miroir, à l'image en tant qu'image. L'homme, en revanche, en voulant se reconnaître, s'approprier son apparence elle-même, sépare les images des choses, leur donne un nom. Ainsi, il transforme l'ouvert en un monde, dans le champ d'une lutte politique sans quartier. Cette lutte, dont l'objet est la vérité, se nomme histoire.
Alors, je vais lire un autre passage. Eh ben non, parce qu'en fait, je sais plus. c'est pas grave. Ou alors, si, ici, c'était pas mal là. Le geste aussi.
Bon, alors, c'est pas évident à comprendre. c'est rapide. Le geste est en ce sens communication d'une communicabilité. À proprement parler, il n'y a rien à dire, parce que ce qu'il montre, c'est l'être dans le langage de l'homme comme pure médialité.
On aurait dû, en fait, chuter à 8h du matin, ça aurait été encore mieux. J'ai un effet de shoot, là, c'est bien.
Ouais, avec un petit café, ça, une bière, peut-être. Alors bon, c'est pas évident à saisir, c'est, voilà. C'est... Mais je crois que là-dedans, il y a quelque chose qui touche à ça, en fait, assez frontalement. C'est cette idée qu'en fait, on est pris dans le langage, tu vois. Le langage nous construit, nous emprisonne, en fait. Et que pour sortir du langage... Faut pas trouver un langage au-dessus, comme un métalangage. Faut essayer de trouer le langage. Faut essayer de révéler le langage comme langage. Faut montrer que le langage n'est que langage, et pas plus. Donc une sorte de littéralité du langage, tu vois. Le langage ne représente pas autre chose. Il n'est qu'un langage. C'est tout. Il n'est que lui-même. Et c'est là où on peut rejoindre la question du masque de l'enfant, justement. Dans ces images-là, qu'on retrouve maintenant donc, dans ce côté un peu appeliste, donc dans l'image, c'était... donc une bande d'enfants, du coup, qui avaient tous des masques et des images un petit peu qui font un peu peur aussi.
Des masques de monstre, quoi.
Moi, c'est ça, le monstre aussi. Le monstre, c'est quoi? C'est celui qu'on montre, en fait. C'est celui qui est montré du doigt, comme l'extériorité, justement. Mais qu'on montre aussi pour exclure, parce que c'est ce qu'on ne veut pas voir de soi-même. Parce que en fait, le monstre, il est surtout en nous, finalement. Et en fait, c'est ce truc-là de se dire, bah, quand on met un masque, est-ce que le masque n'est pas un miroir, quelque part, et nous renvoie, en fait, ce qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes? Est-ce que le masque, c'est pas nous-mêmes? Est-ce que le masque monstrueux, où on montre les enfants comme monstrueux, comme une extériorité, comme ça, c'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes les adultes qui sommes, en fait, monstrueux. Et que, en fait, on a l'impression que derrière le masque, il y a des enfants, mais en fait, on n'en sait pas. Et en fait, on ne sait pas ce qu'il y a, parce qu'il y a ce truc indifférencié. Il y a cette chose qu'on ne peut pas nommer, qui échappe au langage, qui échappe au... Et qu'on ne peut que nommer par... si on le nomme, c'est toujours par négation, en fait. C'est toujours ce masque, c'est toujours un truc qui s'échappe au langage, quoi, tu vois. Je suis pas très clair ce que je dis, mais... Et en fait, je le... C'est pas vrai, parce qu'en fait, c'est comme c'est un truc qui... C'est comme s'il fallait... C'est une espèce de quête que j'essaie de trouver, mais j'arrive pas à le faire. C'est pas facile du tout. C'est comment on peut justement échapper au langage? Comment on peut arriver à ce moment où on n'est plus nommé, tu vois? Et c'est pareil, on parlait des mouvements féministes, la question, les mouvements transgenres sont basés là-dessus, c'est arriver au moment où, en fait, ce qui nous fait devenir homme ou femme, c'est pas ce qu'on est corporellement. C'est même si c'est joué à ça, mais c'est la manière dont on nous nomme, en fait. C'est la manière dont on va plaquer sur nous du discours, du langage, quoi. Même si, bref, je ne vais pas revenir sur la question du corps, mais c'est intriguant aussi, parce que quelque part, est-ce qu'on n'est pas aussi enfant du moment où on prend l'addiction, aussi, l'action de l'addiction, mais bon, c'est autre chose. Enfin, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais finir là-dessus. Je pense aussi à Deligny, du coup, c'est peut-être plus simple pour. Deligny, il a travaillé avec des enfants autistes, justement, et il fait une proposition sur l'autisme poétique. Il dit que les autistes, alors c'est plus des autistes à ce moment-là qui refusent le langage, en fait, qui sont dits non-verbal, donc c'est les années 70 après. Et en fait, il dit voilà que ces enfants-là, en fait, ils ont du mal à dessiner des bonhommes. Quand on leur demande de faire un dessin, ils ne font pas des bonhommes ou des maisons, ils font ce qu'il appelle les lignes d'air, c'est-à-dire des lignes d'errance, quoi. C'est juste des lignes comme ça qui vont nulle part, quoi, un petit peu. Et pareil, quand ils se déplacent, ils ne vont pas se déplacer selon un projet spécifique, selon un ordre, en fait, mais ils vont juste improviser leur déplacement et errer, en fait, dans l'espace. Et donc, ça reproduit ces dessins-là, quoi. Et ce que lui dit, c'est que, en fait, c'est une forme de résistance au langage. C'est comme si le langage, la représentation d'un bonhomme, d'une maison, la représentation aussi même dans le temps et dans l'espace, d'un ordre, de quelque chose, d'un récit, c'est aussi une forme possiblement d'oppression, et eux essaient de résister à ça. Ils résistent en fait à l'assignation, à un langage, à une identité, à un mode d'être, à un comportement, en fait. Et donc c'est comme s'il y avait ce trou dans le langage qui était là. Et je trouve que ça correspond justement, tu vois, à la fin là, le texte là, que j'ai lu avec lenteur, là, avec des trous dans le silence. C'est où allons-nous, tu vois. Et quand tu poses la question où allons-nous, finalement, quand tu es adulte, tu as l'impression que tu connais la réponse, en fait, tu ne la connais pas parce que tu ne peux pas savoir où tu vas. Parce que quand tu sais où tu vas, tu te dis mais pourquoi j'y vais? Et peut-être que l'enfant, c'est celui qui nous demande, enfin qui sait pas où il va, mais qui se pose pas la question de le savoir.
Waouh.
Je crois que c'est le mot parfait de la fin.
Ouais. Je suis pas sûr de ce que j'ai dit, mais on va. Je me réécouterai parce ça. Que je suis pas.
Okay. Voilà. En gros, pour résumer tout ce que tu veux dire, c'est qu'il faut s'autoriser à dire des gros mots, il faut pas accepter de rester très longtemps à la même place.
Merde. Ouais, je pense qu'il faut pleurer en fait.
Ok, il faut pleurer, crier.
Faut accepter d'avoir peur.
D'autres langages.
Ouais. Faut pas parler. Il faut se taire là où on parle d'habitude. Il faut prendre le temps de ne pas faire.
Très bien, c'est parfait. Ça pour ce sera mieux demain.
Exactement, c'est pile poil dans le thème. Merci beaucoup pour votre échange et pour les lectures que tu as apportées.
Et donc un petit son de Narcisse, c'est ça?
Un petit morceau juste avant de retrouver Fanny dans le dôme. Fanny qui nous propose une conférence radio qui va durer environ une heure. Donc on va passer le son, vous allez pouvoir le présenter. Et puis ensuite on va passer en décrochage dans le dôme. On vous remercie encore en tout cas, Nathan et Mathias.
Merci.
Merci.
Il faut... Alors vas-y, donc là on branche juste le petit... En attendant, on peut peut-être expliquer ce qu'est ce morceau.
Alors, ça, je serais bien incapable
de l'expliquer. Tu veux l'expliquer,
Mathias? Pour moi, c'est une expérimentation qu'on appelle du Narcisse, parce que c'est ton nom de musicien.
Ouais.
Enfin, artiste.
Enfin, pour l'instant, je sais pas. Ouais. Ça... Ouais. Enfin, ça l'était. Maintenant, j'ai peut-être changé de nom, mais post-Narcisse, j'aime bien. Mais...
Ok.
Mais ou pas.
Ça parle de l'enfance.
Voilà, c'est un morceau, ça dure 5 minutes.
Eh bien,
c'est en toute détente.
Vas-y, tu peux nous le lancer et puis je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve dans le dôme.
Le temps te regarde. Le temps te regarde et te regarde. Le temps te regarde. Le temps te regarde et te rattrape. Le temps te regarde, le temps te regarde et te rattrape. T'enfonce dans un trou noir, social et sociétal, à refuser ce que tu deviens. À tout l'enfant en toi, l'enfant aimé, à aimer. Et tu cherches par l'amour le regard des autres. Ce que t'as perdu, quand le temps t'est prêt et il a passé. T'es plus le petit que t'étais. T'es plus le petit que t'étais. T'as changé et t'es perdu dans des méandres. Tu te noies dans le lac du monde, affolé et affolant, parce qu'il n'y a plus de limite. T'es libre et enfin adieu. T'es libre et à mort l'insouciance. À mort pour retrouver la vie. Adieu les adultes, adieu toutes ces attitudes que tu réprimais, tout ce qui fait sage et bien en société, tout ce qui te réfute, te refuse, mais qu'il va devoir accepter parce que c'est la marche du monde. Et que t'es plus comme avant, t'as grandi trop vite, t'aurais dû profiter de ton enfance, t'aurais dû faire des conneries pendant que c'était possible, t'aurais pu te faire plaisir aussi. T'aurais pu te faire plaisir. Toucher le retour sur soi, vis sans conscience et tu vivras. À mort le responsable, vis sans conscience et tu vivras. À mort le regard des autres, vivre simplement, vivre sans retour et sans conscience, et tu vivras passif. À mort le regard des autres, vivre simplement, sans retour, sans conscience, et tu vivras passif. Le temps se transforme, te vieillit, t'assagit, te transforme en un autre que tu n'es pas. Passif, le temps se transforme, se vieillit, s'assagit, se transforme en un autre que tu n'es pas. Je veux pas grandir, je suis né grand, jamais enfant. Je veux pas grandir, je rajeunis, être un enfant. Je veux pas grandir, je suis né grand, jamais enfant. Je rajeunis, être un enfant. Et le monde prend une autre couleur, il s'étale. Tu deviens fou, et c'est normal, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Et le monde prend une autre couleur, il s'étale. Tu deviens fou, et c'est normal, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Vivant. Je veux pas grandir. Je veux pas grandir, je suis né grand, jamais enfant. Je veux pas grandir, je rajeunis, être un enfant. Le responsable, bûcher le retour sur soi, vis sans conscience et tu vivras. À mort le responsable, bûcher le retour sur soi, vis sans conscience et tu vivras.